Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien bonjour les amis et bienvenue à la table des bons vivants. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Nous allons bien manger et puis comprendre surtout ce que nous mangeons avec nos reportages, nos débats et notre bande de bons vivants. Elle a le goût du bon sens et la curiosité pratique. Elle va nous le prouver avec une recette spéciale cocktail dans un instant. Anne-Laure Femme est avec nous. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de faire shaker un peu l'émission.
Quand il n'est pas derrière ses fourneaux de Saint-Germain-des-Prés, il est à la table des bons vivants. Il nous invite ce matin à un apéro tapas. Bonjour Yves Candebord.
Bonjour, heureux d'être à la table.
Et plaisir partagé, camarades. Marion Sauveur et Olivier Poul se sont en vadrouille. Vous les retrouverez la semaine prochaine. Et c'est notre duo du jour qui présentera le journal de la cuisine dans un instant. Jean-Luc Petit-Renaud sera bien au rendez-vous. Il a parcouru les archives de la cuisine pour nous dresser la liste des métiers oubliés et disparus. Et il y en a pas mal. On se fait tout un monde, vous le savez, de la pâtisserie, précis, technique. Eh bien, le pâtissier Benoît Castel va nous prouver le contraire avec sa pâtisserie simplement naturelle, sans additifs et moins sucrée. L'hiver n'a pas le monopole des navets, carottes, oignons et autres betteraves. On vous emmène les récolter en primeur. Et puis nous partagerons un plat du jour spécial pour notre invité. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera l'auteur et metteur en scène Jean-Michel Ribes qui sera avec nous. Allez, tout le monde à table les amis. Alors en cuisine, comme au marché, vous êtes d'accord, c'est une affaire de goût. Commençons eh bien par ça justement. Quel est votre goût de la semaine ? Honneur aux dames, Anne-Laure Femme, votre goût de la
trop
semaine,
aimable, Laurent.
Cher enfant.
Alors, dis donc, eh bien moi je m'intéresse aux enfants, avec Les Petits Gourmets en Cuisine, qui est un super livre qui est sorti aux éditions Ulmer. Laura Anert, Odile Bayeul, Claire Kurt, ça a le goût du simple et du bon. C'est trop mignon, vous voyez des petites souris qui préparent les recettes de cuisine et... Chose rare dans les livres pour enfants de cuisine, c'est que vous voyez les ingrédients sous leur vraie forme. Ils sont toujours dessinés, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble.
Stylisé, oui.
Et là, on voit les petites souris en action qui manipulent tout ça. Et j'ai testé cette recette. Un nid de carottes et de courgettes avec des œufs de caille. C'est trop mignon. Vos enfants de 3-4 ans peuvent enfin manger des carottes râpées sans protester. C'est
il a aimé votre enfant, votre fils alors.
Ah ben on le gâte. Hein.
Petit ça lui fait quel âge?
Il a 4 ans.
Ben oui, donc il est en plein dedans là.
Petit gourmet en cuisine aux éditions Ulmer, n'hésitez pas.
Merci Anne-Laure Femme. Yves Candebord, votre goût de la semaine.
Alors moi, mon goût de la semaine, c'est pour une maison d'édition.
C'est
les éditions de l'Épure.
Oui, magnifique maison d'édition.
Alors je vais juste vous lire une phrase. C'est tout simplement « Le pâté, c'est la vie ».
Ça sent le pâté, c'est
le
bon.
Gras,
ça.
Le gras,
mais
c'est
le
la
bon
vie.
Pâté.
Tout à fait, c'est dans la collection Les 10 façons de faire. C'est fait par Anne Etor. Elle a réuni 10 recettes de pâté de chefs cuisiniers, 10 recettes emblématiques un peu des souvenirs de ces cuisiniers. Et c'est bien fait. Je trouve ça très ludique. Ça coûte pas cher.
C'est une très jolie collection. 10 façons de préparer. Il y en a autour des légumes, autour des viandes, autour des poissons. C'est une belle collection.
Et c'est un papier magnifique. Oui. C'est vraiment des couleurs variées et des prix vraiment.
Tout à fait. C'est un objet, quand on le touche, l'impression de presque de toucher une terrine de pâté.
Il a de l'imagination.
Il va tartiner le livre bientôt, attention. Alors mon goût de la semaine, moi c'est le goût du chili con carne. Hey. J'avais beaucoup de monde à la maison cette semaine et j'ai fait ça, un vrai chili. Ça prend rien à préparer, ça prend une demi-heure. Mais Yves, tiens, pour changer de la noix de gîte ou du tendre de tranche qui est habituellement haché menu par le boucher, j'ai pris du paleron et je lui ai demandé de me le tailler grossièrement le paleron après l'avoir dénervé. C'est déjà un morceau qui coûte pas cher, qui est bon marché. Avec la grille à gros trous du boucher, j'avais un chili con carne avec de la mâche, les haricots rouges, bien entendu, la boîte de tomates pelées bio en conserve, le maïs, du piment et un guacamole pour rafraîchir tout ça à la fin. C'est parfait ça.
Ouais, c'est parfait. C'est vrai que le paleron est un morceau peu utilisé alors que c'est un morceau qui est très goûteux. C'est vrai qu'il y a une petite mâche, mais c'est une mâche goûteuse.
Mais il y avait des enfants et tout le monde s'est régalé. Donc tous au chili et je vous mettrai la recette sur notre site europe1.fr bien entendu. Comme toutes les recettes que vous allez entendre jusqu'à midi et demi. Allez, direction Toulouse les amis. La ville rose pour découvrir le marché de Saint-Aubin. Un village d'irréductibles producteurs locaux entoure chaque week-end la cathédrale. Et pour les Toulousains, je peux vous dire que le marché est un art de vivre. Julien Amat leur a tendu le micro. Écoutez.
Je viens d'acheter du pruneau demi-séché. C'est la première fois qu'il n'y avait personne. Et ces pruneaux sont délicieux et moins chers qu'ailleurs.
Des artichauts et des fèves que je vais accommoder avec des petits oignons, avec un peu de lardon.
Bon, les fèves, moi, je les aime crues. À la croque-sel, c'est très bon.
L'échalote toute fraîche, toute jeune. J'adore son échalote, je l'attends chaque année avec impatience.
Il y en avait 5 bottes.
Voilà, alors donc c'est la promo. Alors pour 5 euros, j'en ai 6.
Je suis producteur et je suis sur le marché Saint-Noël. Ça a des poules, des poulets et des poulettes.
Oui, c'est des poules vivantes et ça dépend du poids. Après, ça varie de 8 à 12 euros.
Là, on est devant des plantes tomates et je suis hésitante. La dame à côté m'a dit que les andines sont très bien, donc je vais acheter des andines. La Crimée aussi. On peut, à partir de maintenant, commencer à planter.
J'ai acheté le top, le petit épeautre. Il produit son petit épeautre, il le moissonne, il fait la farine et il fait le pain. Quoi. C'est de H à Z. Hein. Et ouais, c'est un sacré boulot. Quoi. Ou un boulot sacré, ça dépend dans les deux sens.
Et oui, ça marche dans les deux sens. Belle ambiance sur
ça
le marché
envie d'y être, hein.
Saint-Aubin. Alors on parlait du pain, c'est la fête du pain encore ce week-end. Pensez-y, vous allez sur fêtedupain.com. Il y a toutes les références des ateliers, des démonstrations à côté de chez vous. Ça vaut le coup de s'intéresser au pain. Anne Lorfame.
Surtout ne pas hésiter à s'intéresser aux farines de blés anciens, de céréales anciennes qu'on redécouvre aujourd'hui grâce à des meuniers qui
ce qu'on appelle les blés de population.
De
comme
ouais.
Roland Feuillasse par exemple du côté de Cucugnan.
Et le goût change du tout au tout, la texture
vraiment.
Aussi,
soyons
et ça
curieux.
Se conserve plus longtemps.
Oui, complètement. On retrouve voilà, ce vrai goût de pain qu'on avait dans nos campagnes. Mmh. Voilà. C'est vrai que c'est un côté beaucoup plus puissant. Et ce qui est très important, Laurent, vous l'avez dit, c'est que ça se conserve.
Exactement.
C'est très important. 3-4
jours le pain, c'est magnifique.
Oui,
c'est
après.
Vraiment de l'anti-gaspi. Mmh.
Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Restez avec nous. Et la nature est bien faite parce que pour faire le plein de fibres et de vitamines pour le printemps, les légumes primeurs sont de sortie. On vous emmène les récolter et les cuisiner dans un instant. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi matin.
Jusqu'à 12h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants, une table colorée et bien fleurie aujourd'hui.
Absolument Justine, la table des bons vivants est aux couleurs du printemps. Alors c'est vrai que ce week-end il joue un petit peu à cache-cache, mais il est bien là quand même. Et on vous a préparé un beau bouquet de légumes nouveaux, le petit navet violet, les carottes fan multicolores, les oignons blancs et rouges, on vous emmène les récolter dans un instant. C'est ce qu'on appelle les légumes primeurs. Et c'est pas un mot qui est nouveau, hein. Le mot primeur ça date du XVIIe siècle, 1694 pour être précis.
Et non, on appelle, c'est précis.
C'est, moi j'aime bien être précis. Hein. On appelle primeur les premiers fruits et légumes évidemment récoltés de la saison et ils apparaissent avant leur saison normale de maturité. C'est pour ça qu'on est très content de les retrouver, Anne Lorfame. On les bichonne ces petits légumes.
C'est le plaisir du printemps et des légumes primeurs ça veut dire plus d'eau, plus de vitamines,
oui.
Plus de nutriments que des légumes dits de garde. Donc, et surtout ce qui est très important c'est qu'il faut les consommer tout de suite. Ne surtout pas les laisser ramollir au frigo. Et j'ai un exemple de légumes primeurs favoris. C'est la carotte fan, qui est beaucoup plus riche en carotène que celle de Garde. Et surtout, rajoutons que les légumes primeurs sont synonymes du printemps parce qu'ils sont en général plus tendres, plus croquants,
ben
donc
oui.
Ils nécessitent moins de cuisson
et,
en cuisine.
Et fondants aussi, Yves Candebord. Ouais. Ils ont tout bon, quoi, et on garde la peau en plus.
Oui, totalement. Mais c'est vrai qu'on parle souvent des légumes primeurs comme la carotte, les petits pois, tout ça. Mais il ne faut pas oublier aussi l'ail nouveau, l'échalote
oui.
Nouvelle, qui sont vraiment c'est des légumes primeurs qui sont très très bons parce que ça amène le supplément d'âme à la cuisine. Et quand on a la chance d'avoir des superbes ail nouveau,
oh, c'est sublime ça.
C'est sublime et on mange tout.
Tout, mais tout la tige.
Tout se consomme de la tige à la gousse.
J'en ai fait
A
cette semaine, moi, juste râpé, mais j'ai tout râpé de la tige jusqu'au
totalement.
Bulbe, à la mandoline, dans un petit peu d'huile d'olive, pour faire revenir du thon et un petit peu de tomate concassée en boîte. Ça vous fait un beau démarrage.
Et
ça.
En début de repas, Laurent, de prendre ces petites gousses, juste de les frire, hein, ces petites gousses d'ail nouveau, les frire très légèrement, après un peu de gros sel dessus,
c'est bien,
une
ça.
Merveille à manger.
Alors les carottes, les navets, les oignons se refont une beauté au printemps. On vous emmène les récolter tout de suite chez Thierry Rian. C'est un maraîcher qu'on aime beaucoup à la table des bons vivants. Il est installé à Carrières-sur-Seine, dans les Yvelines. Et il vous présente deux spécimens de légumes nouveaux au micro de Julien Amat.
Les sandglaces viennent de finir. Ça veut dire que tous les légumes qui craignaient le froid, on va pouvoir commencer à les mettre en place à l'extérieur. On a du navet devant nous là. Deux sortes de navets, un navet violet et blanc. Et ensuite, un navet japonais qui ressemble plus d'abord à un radis parce qu'on a un côté sucré vraiment pas fort à manger. On peut pratiquement le manger cru. Tout se mange. Au niveau goût, ça n'a rien à voir entre un produit de garde qui va être déjà plus sec. La méthode de travail reste approximativement identique, mais le produit en lui-même est plus épais en fait. Et ça, non, ça reste avec une hygrométrie complètement différente, avec une texture aussi beaucoup moins sèche, bien sûr. On vient de faire une botte de carottes, mais c'est bien pouponné. Une botte bien ronde. On a un jaune, un violet blanc, violet orange, violet jaune. On prend soin de nos bébés, une grande crèche où on bâche et on débâche avec du voile de forçage en permanence.
Et oui, une belle crèche multicolore, c'est ça, on mange avec les yeux aussi. On entendait le vent, hein. Il y avait un petit peu de vent cette semaine, effectivement. C'est vrai que le printemps joue à cache-cache, mais les légumes nouveaux sont là, Yves Candebord.
Les légumes nouveaux sont là. Moi, si j'ai un conseil par rapport aux légumes nouveaux, c'est ne les cuisez pas à l'eau.
Non.
C'est vrai qu'on a une tendance un peu facile de les tremper dans de l'eau.
C'est dommage.
Mais ça les dénature, ça perd de leur saveur.
Juste étuvé, glacé, non ?
Totalement. Surtout, on ne les épluche pas, Laurent. On va bien les laver. S'il faut les frotter légèrement avec une petite brosse, on les frotte. Et à la limite, on prend une poêle, un trait d'huile d'olive, et on va les rôtir tout doucement, l'huile d'olive. Ça donne un légume qui est bien croquant, un légume qui a gardé toutes ses saveurs, qui n'a pas été dénaturé. Et ça fait aussi bien, je dirais, une petite entrée. Si vous voulez prendre vos petites carottes, une fois qu'elles sont rôties, vous y mettez un peu de pain d'épices avec, vous les roulez déglacées avec une pointe de vinaigre, vous avez une petite entrée aigre-douce qui est remarquable, ou les mêmes carottes, sans pain d'épices, juste déglacées avec une pointe de vinaigre, en accompagnement d'une viande ou d'un poisson, ça vous fait vraiment un petit légume de saison qui est tout en fraîcheur.
Ou juste glacé avec un petit peu de beurre, du sel, du sucre, comme on le fait dans les écoles de cuisine.
De grand classique.
Le papier sulfurisé au-dessus, ils vont être brillants, ils vont être enrobés, c'est beau. Vive le légume nouveau. Alors vous savez ce que nous allons faire maintenant ? On va prendre ces légumes, on va les apporter à Alessandra Montagne, qui est une chef parisienne.
Super chef.
Que vous connaissez.
Magnifique, haut en couleur.
Et elle va réaliser le plat du jour pour vous et pour notre invité Jean-Michel Rib, qui sera là sur les coups de midi. C'est vraiment de la terre à la table aujourd'hui, à la table des bons. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec le journal de la cuisine et un dossier spécial pâtisserie simple et naturelle. A tout de suite, on est bien sur Europe 1.
Laurent, vous avez décidé de fêter le printemps avec toute l'équipe des Bons Vivants sur Europe 1 ce samedi.
Tout à fait, Justine, on sacre le printemps qui s'en va et qui revient un petit peu ce week-end. Voilà, nous sommes avec vous jusqu'à midi et demi. Alors avant de se lécher les doigts autour de travers de porc fumé en compagnie de Jean-Michel Rib, c'est l'heure du journal de la cuisine présenté ce samedi par un nouveau tandem que les chaînes d'info nous envient.
Incontournable.
Anne Lorfam et Yves Condebord. Voici les titres de votre journal de la cuisine.
Vous prenez des risques, Laurent.
Chauffe sa voix.
En 15 ans, la consommation de lait a chuté de manière spectaculaire en France. La bière, elle, a le vent en poupe. Le mondial de la bière, c'est ce week-end. Et on connaît la meilleure baguette de tradition française de France. On vous dit tout de suite où elle se trouve. Yves, les Français boivent de moins en moins de lait.
Eh oui, c'est une réalité, Laurent, de 61 litres par an et par personne. En 2003, nous sommes passés à 45 litres et demi. Une baisse de 25% de la consommation de lait, d'après le syndicat professionnel Syndilait. Mais bon, il y a quand même une bonne nouvelle. C'est que les Français choisissent leur lait d'origine française. Et ça,
c'est bien.
Ça représente 97% des ventes.
Ah bah, cocorico.
Donc, cocorico.
Le mondial de la bière, c'est maintenant, Anne-Laure.
Et oui, depuis hier jusqu'à demain soir, vous pouvez boire une petite pinte au parc floral de Paris, dans l'est de Paris. Vous choisissez entre les 500 bières servies par des brasseurs artisanaux, pour beaucoup. Et au programme, vous avez aussi beaucoup de street food et de la musique sur scène pour vous faire mousser.
Ah, je vous reconnais bien là. La fête du pain qui met à l'honneur les artisans boulangers se termine demain, Yves.
Oui, et c'est très très bien de mettre les artisans boulangers à l'honneur. Parce qu'ils étaient nombreux, les boulangers, à sortir 40 baguettes de tradition française en 6 heures mercredi.
Eh oui.
50 cm de long, 250 grammes, ni adjuvant, ni améliorant. Vous savez que les critères sont stricts pour être élu meilleure baguette. Et le regagnant, c'est Mehdi Courget. Est-ce que vous savez où c'est ?
Mais oui, c'est à Morteau.
C'est à Morteau, c'est dans le Doubs.
Il y a la pas boulangerie de la saucisse, il y a de la baguette aussi à Morteau.
Et Dieu sait que la Morteau, quand même,
c'est
quand même magnifique comme produit.
Et une belle Morteau dans une belle baguette de tradition française qui a gagné quand même le championnat, ça fait un beau sandwich.
Petit Jésus en coulée courte.
Mais voilà.
Alors, Laurent, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui aurait pu participer au concours.
Oui,
mais
je vous
il
vois venir.
Mais il a préféré venir s'attabler à la table des bons vivants.
C'est Benoît Castel.
C'est l'immense pâtissier boulanger Benoît Castel.
Alors on va le recevoir dans un instant, on va faire de belles pâtisseries de printemps avec lui, vous allez entendre.
Et on va parler de fraisier, on va parler de tarte fraise rhubarbe, on va parler de pâtisserie de saison.
Numalim, la nouvelle plateforme pour faire ses courses en toute transparence, est en cours de développement, Anne-Laure.
Alors, en toute transparence, Laurent, certainement pas, d'après le journal du Canard Enchaîné. Le journal a enquêté parce que cette plateforme qui est censée nous aider à faire nos courses, en fait, est financée par des géants de l'agroalimentaire, comme Coca-Cola, Mars ou Ferrero. Donc, j'ai une suggestion à tous nos auditeurs. Et si on lâchait notre smartphone pour mieux remplir notre panier en toute spontanéité ?
Quelle bonne idée !
Allez, Anne-Laure, et avec notre aide.
Et pour écouter la table des bons vivants, eh bien bravo à vous deux. Et j'ai Laurent Guimier, le patron d'Europe 1, dans l'oreillette, qui me dit qu'il vous veut justement à la présentation des journaux désormais tous les jours dans la matinale.
On est très partant avec Yves.
C'est beau ça. Allez, stop à la pâtisserie qui intimide. Oui, au dessert simple et naturel. Voilà pourquoi j'ai invité Benoît Castel, l'ancien chef pâtissier de la grande épicerie du bon marché a régalé les Parisiens avec ses pâtisseries Joséphine Bécry et Liberté. Et aujourd'hui, il met son nom en haut de l'enseigne pour défendre une pâtisserie naturellement simple, à Ménilmontant, un joli quartier populaire. Bonjour Benoît Castel.
Bonjour.
Pâtisserie simplement naturelle. C'est vrai qu'on le dit souvent ici, mais c'est compliqué de faire simple. Hein.
Mais c'est assez compliqué de faire simple. Et là, je voulais donner un peu des astuces pour un petit peu décomplexifier la pâtisserie. C'est vrai qu'à chaque fois, on dit « ouais, c'est compliqué ». Mais on peut faire très bon en faisant très simple dans de la pâtisserie, en fait. Et donc voilà, j'ai essayé de livrer quelques astuces, en fait, pour faire des pâtisseries à la maison, très simplement et naturellement bonne.
Un joli livre paru aux éditions de La Martinière et on voit tout de suite de toute façon sur votre couverture, hein, le signal est lancé, une belle tarte aux poires toute simple avec la queue des poires encore, on
Exactement.
Reconnaît ce qu'on mange dans vos pâtisseries.
Exactement,
aussi,
on essaie, enfin voilà, on se donne du mal en tout cas à respecter la matière première.
Et la saison, ce que vous
et
faites
saison,
également.
Et la
Alors,
saison.
On va retrouver des pommes au four, une tarte au citron dans votre livre, une mousse au chocolat façon grand-mère. Elle déchire, hein, votre mousse au chocolat.
Elle est pas mal.
Là, expliquez ce que vous mettez dedans quand même, parce que vous y allez pas mollo. Hein.
Non, très simple. Du chocolat, de la très bonne crème.
Mais c'est ça, une crème fraîche
et des œufs,
entière.
Et des œufs frais, c'est tout.
Ben voilà, simplement. Voilà. Et on a une belle religieuse aussi qui s'en canaille. Hein. Elle est au cassis, la religieuse.
Elle est au cassis, hein. Ouais, hein. Et au poivre de cassis. Ouais.
Anne Lorfemme.
Moi, j'ai toujours été une grande fan de votre cheesecake, Benoît. Depuis la grande épicerie, et je vois que vous avez consenti à enfin révéler le secret de croustillant de la pâte, la base du cheesecake. Vous pouvez la faire avec des spéculoos, des petits beurres, des sablés
des
aussi.
Des biscuits cassés qu'on repasse.
Voilà, c'est
pareil. Hein, là, on ne récupère pas assez les matières premières.
Et là, dans votre livre, vous dites enfin, votre secret, c'est des biscuits tuc, les biscuits apéritifs qui apportent une petite touche salée.
Oui,
et c'est incroyable.
C'est vrai que c'est une pâtisserie de saison, ça, le cheesecake. Hein. C'est un petit côté acidulé. Il est frais. Vous le faites à quoi, vous, par exemple?
Alors, là, en ce moment, on va le faire à la framboise, à la fraise. Mais la base de notre cheesecake, donc on n'a pas de crème cheese, nous on le fait au fromage blanc. Et à la crème épaisse d'Isigny. Voilà.
Ah oui.
Yves Condebord.
Moi, je pense qu'il faut surtout signaler à tout le monde que si on s'attend à avoir du bleu, du vert fluo, du jaune fluo, vous ne le trouverez pas.
Oui, il n'y a pas de colorant.
Il n'y a pas de colorant. Il y a vraiment une pâtisserie, je dirais, vraiment à la française. Ce que le monde entier nous a envié pendant des années et des années, c'est toutes ces bases de pâtisserie, ces grands classiques qui sont d'une gourmandise extrême. Et ce que je trouve magnifique, Benoît, c'est que toutes les photos, moi, me donnent envie.
On est loin de la haute pâtisserie un peu intimidante hein, qu'on voit dans des boutiques, effectivement, des desserts haut de gamme qui sont assez chers parfois et qui ont recours aussi, il faut bien le dire, aussi à des additifs et des colorants de temps en temps. Alors ne bougez pas, restez avec nous. Les desserts de printemps sont à portée de rouleau à pâtisserie pour tout le monde. On revient dans un instant avec plein d'idées de recettes, juste après un peu de musique. Bon samedi matin sur Europe 1.
Europe 1.
Les pâtisseries, est-ce que vous aimez? Et quand elles sont saines, c'est encore mieux. Eh bien, ça tombe bien, la table des bons vivants s'y intéresse aujourd'hui avec votre invité, Laurent.
Pâtisserie simplement naturelle. Le premier livre de notre invité est une gourmandise à dévorer, une gourmandise parue aux éditions de La Martinière. Vous composez des douceurs, hein, Benoît Castel, sans colorant ni additif, en vous appuyant sur vos souvenirs de goût et sur les produits de saison. Quel est le dessert, tiens, qui vous a marqué dans votre enfance ou dans votre apprentissage?
Mon dessert favori, c'est drôle, bon, je suis breton, donc c'est les crêpes, bien évidemment, et j'adore les crêpes Suzette et la tarte tatin. C'est mes deux desserts.
C'est magnifique. La tarte tatin qu'on retrouve dans votre... Elle est généreuse, hein, bien épaisse.
Elle est bien épaisse, généreuse, et puis voilà, on y met tout ce qui... Enfin, on récupère notre oignon de pomme, on récupère nos pots de pomme, on fait nos nappages naturels, on ramène
un max. Vous ne jetez rien, vous récupérez tout.
On essaie vraiment de tout traiter, quoi.
Vous nous avez apporté quelques belles pâtisseries de chez vous.
Le chou vanille, le chou chocolat, et puis en ce moment, donc, on a la tarte pomme rhubarbe.
C'est une petite merveille.
Oh, elle est bien, votre... Ah, j'aime bien, on reconnaît bien l'acidité de la rhubarbe, vous ne l'avez pas trop adoucie?
Pas trop, alors comment on travaille la rhubarbe? Eh bien avec la pomme et le crumble, c'est un peu sucré, qu'on contrebalance avec un petit peu de l'acidité de la rhubarbe. Je vous ai amené aussi une confiture de rhubarbe, par contre qui paraît très verte, mais qui est au contraire très sucrée.
Vous aimez travailler la fraise aussi, Benoît Castel, et alors ça va dans le sens de ce que vous disiez, de ne pas jeter, de ne pas gaspiller. Vous faites un fraisier déstructuré, revisité, mais que même tout le monde peut faire. Hein, nos auditeurs peuvent leur faire rapidement ce week-end.
Vraiment, en fait, c'est la recette est dans le bouquin. Hein, c'est une crème pâtissière montée avec de la mascarpone. Simplement, au lieu d'y mettre quelque chose de très lourd comme du beurre pour les mousselines. L'idée, c'était de ce fraisier, c'était de récupérer les chutes de biscuits qu'on avait. Vous savez quand on fait des jolis gâteaux, des jolis ronds, on a toujours plein de chutes. Eh bien, en fait, c'était de réincorporer.
Biscuit Joconde.
Voilà. Et dedans, on a donc cette crème mousseline. Et aussi, pour moi, dans le fraisier, il y a un truc qui est hyper important, c'est la pâte d'amande. Il faut qu'il y ait de la pâte d'amande dans le fraisier. Donc, on y met des cubes de pâte d'amande. C'est une pâte d'amande qu'on fait venir d'Allemagne, qui est extraordinaire, une pâte d'amande suprême. 80% d'amande. Et ça prend vraiment le goût du fraisier. On a des codes, hein, tous, dans les... en bouche, quoi.
C'est le printemps, alors faire attention à sa santé et à son tour de taille, c'est d'actualité. Et à ce propos, il y a un mouvement en pâtisserie depuis quelques temps, Benoît Castel, qui consiste à réduire le sucre. Vous êtes passé par là aussi,
vous ? Bien sûr. Bah, c'est vrai que quand on... souvent, quand on est des fois, je suis en panne d'inspiration, je retourne dans mes cahiers d'apprentissage. Et c'est vrai que quand je retourne dans mes recettes, je vois que sur une crème pâtissière, des fois au litre, une crème anglaise, on mettait jusqu'à 250 grammes de sucre au litre. Incroyable.
C'est énorme.
Et aujourd'hui, si on fait ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Yves, ça ne va plus, quoi.
Non, complètement.
Ça va plus. Donc, on est plus passé sur 180 grammes de sucre au litre pour du lait ou pour une crème anglaise.
Aussi, Benoît, il faut le dire, le sucre aujourd'hui est quand même un produit qu'il faut vraiment modérer.
Faut faire attention.
Parce que c'est pas bon pour la santé.
Certaines personnes doivent carrément stopper le sucre. Et nous avons au téléphone la créatrice des Belles Envies. C'était une pâtisserie parisienne qui s'adresse aux diabétiques et à tous ceux qui veulent des desserts moins sucrés. C'est Alix Bornon. Bonjour Alix.
Bonjour.
Ah, on vous entend marcher, mais, donc ça c'est bien, manger et bouger c'est important, je le disais. Les Belles Envies, c'est une pâtisserie pour les diabétiques, mais pas que en fait. Hein.
Moi j'ai créé les Belles Envies il y a 3 ans et demi, parce que je suis diabétique, et toujours cette contrainte de pas pouvoir manger sucré, ou alors à index glycémique élevé, donc pour éviter les fameux pics de glycémie qu'on a après avoir mangé quelque chose de sucré.
Oui, vous, en fait, votre engagement, c'est d'assurer un index glycémique très bas, mais ça ne veut pas dire que vous enlevez le sucre. Hein.
C'est exactement ça. On enlève tous les sucres qui font monter la glycémie, c'est-à-dire le saccharose, le sucre blanc, le sucre raffiné, qu'on remplace par un autre sucre à index glycémique bas. Et les farines, comme les farines de blé blanche qui sont de type T45 et T55, qu'on enlève complètement, et on utilise les farines complètes, meulées à la pierre, qui favorisent donc les fibres, mais qui n'élèvent pas le taux de sucre dans le sang. Et ce qui est extrêmement important pour les personnes diabétiques ou soucieuses de leur ligne, les sportifs, parce que ça n'altère pas leur performance, ils sont moins fatigués, ils produisent moins d'insuline, etc. Et vous avez toujours cette côté, cette douceur en bouche, qu'on veut retrouver quand on mange un gâteau.
Alors justement, une idée de gâteau qu'on peut déguster chez vous aux Belles Envies, rue Monge à Paris, dans le 5e arrondissement.
De la tarte au citron, on a essayé de refaire de tarte au citron, donc notre pâte sablée, donc c'est de la semi complète.
Oui, je l'ai, votre tarte au citron, c'est
très,
magique, elle
est
à côté.
Très
bon
aussi.
Ah, génial.
Ah ouais, bravo.
Pour finir, le fin mot, c'est que quand vous êtes diabétique, votre glycémie, elle ne monte pas, et donc c'est magique.
Eh bien, c'est délicieux. Merci à vous, en tout cas, Alix Bornon, d'avoir été au téléphone. Et je signale votre livre, Les Belles Envies, paru chez Flammarion. La success story d'une diabétique militante de la gourmandise. Merci Alix Bornon et bonne journée. C'est une initiative qui vous parle, Benoît Castel, ça, par exemple.
C'est vrai, c'est vraiment bien. C'est un beau travail, beau résultat. C'est bon, c'est goûtu. Et c'est vraiment important de le faire aujourd'hui.
Eh bien, on continue à se faire plaisir simplement et naturellement en pâtisserie avec Benoît Castel. Alors, je sais que vous êtes un adepte du brunch, Benoît Castel.
Eh oui.
Alors, on revient avec quelques idées de desserts faciles et originaux pour recevoir ce week-end. A tout de suite sur Europe 1.
11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
De 11h à 12h30, vous êtes avec Laurent Mariotte à la table des bons vivants. Et quand le soleil recommence à briller, les recettes légères refont surface, elles aussi.
C'est le printemps, les amis, la saison pour cuisiner des œufs brouillés aux asperges vertes, des cocottes de légumes primeurs, Yves Candebord,
complètement.
De belles volailles fermières, autant d'idées pour bruncher ce week-end. Alors justement, le brunch, c'est un moment important pour notre invité Benoît Castel. Dans votre belle adresse de la rue Ménilmontant, 150 rue Ménilmontant, sur les hauteurs cœur de Paris. Vous avez fait du brunch de quartier une institution, Benoît Castel.
On a essayé, de créer un endroit avec, sentir bien, comme à la maison. Voilà.
Oui, puis le brunch, c'est une belle occasion, le week-end, de mélanger le sucré et le salé. Quelques idées de dessert, tiens, pour nos auditeurs, qu'ils vont pouvoir refaire ce week-end avec les produits de saison. Mais vous savez ce qu'on appelle des desserts faciles de cuisinier, d'assemblage, quoi.
Moi, il y a une chose toute simple que je fais à la maison quand je reçois des amis. Vous prenez simplement, en ce moment, une crème épaisse, une crème d'isigny, un petit peu acide. Vous y mettez de la vanille, un peu de sucre. Et vous la faites foisonner comme une crème liquide pour faire une chantilly.
Oui, on la fait monter, quoi.
Voilà, vous la faites monter. Après, vous ajoutez des bonnes fraises dedans. Vous mélangez ça, vous mettez ça dans un petit plat. Alors, beaucoup de fraises, des bonnes fraises. Coupées en morceaux, un petit peu écrasées, mélangées au fouet. Et après, on y met quelques brisures de sablé dessus, simplement. On fait un petit crumble très facile à réaliser. Et on se régale avec ça.
On peut faire des crumbles de rhubarbe aussi en ce moment.
Crumble de rhubarbe, c'est bien de mettre de la rhubarbe avec un petit peu de fraises, un petit peu de sucre. Et je mets toujours un petit peu, j'aime bien mettre du clou de girofle dans la rhubarbe. Je
trouve que ça. Pas
c'est
mal,
la petite
ça.
Astuce qui fait que ça donne un petit peu de longueur en bouche. Ouais.
Juste Benoît, comment vous cuisez la rhubarbe? C'est une grande question que je me pose en ce moment.
Il y a plein de façons de la cuire. Alors par exemple sur la tarte, une des tartes en fait que j'ai dans le bouquin, je fais des tronçons assez longs, réguliers. Après, je la mélange avec un petit peu de sucre. Je mets une poêle, je la chauffe bien et je balance la rhubarbe dedans.
Sans matière grasse.
Sans matière grasse.
D'accord.
Et vous la laissez pendant 1 minute, 2 minutes. Et vraiment, la rhubarbe, elle reste, on la saisit comme une viande. Et après, vous la mettez à refroidir sur le côté. Et on garde un peu cette texture de rhubarbe, parce qu'il y a beaucoup d'eau de végétation dans la rhubarbe. Ouais. Donc si vous cuisez trop, en fait, ça part complètement en charpie. Et donc là, vous avez des jolis bâtonnets que vous pouvez disposer sur une verrine ou sur une tarte. Et voilà.
Dans votre livre, Benoît Castel, vous mettez aussi en avant une nouvelle façon de pâtisser en utilisant des objets du quotidien. Par exemple, la boîte de camembert qu'on détourne, le verre du Ralex.
Ça
devient des contenants avec vous.
Ça devient des contenants. Puis j'aime bien le côté un peu ludique. C'est vrai qu'on a tous des souvenirs. La pâtisserie, on en a tous des souvenirs de douceur. Je trouvais ça de rigolo, par exemple la série des taquelages dans le verre.
On s'amusait à deviner l'âge dans le fond
exactement.
Du verre.
Moi je pensais que c'était un gâteau suédois.
Mais tout le monde ne comprend pas.
Oui, les taquelages. C'est pas un meuble de chez Ikea.
Et puis de récupérer les boîtes de camembert, on arrive à faire de jolies choses avec.
Eh bien, merci en tout cas, Benoît Castel. Avec vous, la pâtisserie a de beaux jours encore devant
merci
elle.
Merci beaucoup.
Et pour vous en assurer, testez le livre de Benoît Castel, Pâtisserie simplement naturelle, paru aux éditions de La Martinière. Merci Benoît Castel.
Merci à vous.
Europe 1, 11h, 12h30. Laurent Mariotte.
Bientôt midi moins le quart. Alors ce samedi, Jean-Luc Petit-Renaud, écoutez bien, ça va vous plaire, Yves Candebord, il revient sur les métiers de la cuisine qui ont disparu. Derrière de jolis noms, vous souvenez, se cachait un travail, une spécialité menée à son excellence. Eh bien, c'est ce que nous raconte le compagnon de la fourchette, Jean-Luc Petit-Renaud. Bonjour, bonjour l'ami Jean-Luc.
Bonjour les jolis amis. Figurez-vous qu'aujourd'hui, je suis chez Drouhan, le célèbre restaurant de Paris, où on décerne le Goncourt, le Renaudot, et puis aussi on défend des mots un peu oubliés, un peu à la manière de l'Académie française, mais on est sensible à tout cela. Et bien moi j'avais envie de défendre certaines professions qu'on a un peu oubliées dans les brigades de cuisine. Alors quand on voit par exemple le nombre de métiers que l'on a perdu, déjà le chef à ce moment-là s'appelait le gros bonnet, simplement le gros bonnet parce que c'était la toque la plus haute, vous savez c'est celle qui donne le plus d'allure. Mais le chef cocotier par exemple, c'était celui qui cuisait uniquement les œufs, les abats et tout ce qui tourne autour des abats, spécialiste des rognons, des riz de veau, etc. Il y avait le chef potager qui faisait les petites marmites et puis les consommés, les potages. Le friturier qui faisait les pommes soufflées. Et puis il y a un métier que j'adorais qui était le tourrier, une sorte de dissidence de boulanger. Le tourrier, c'est celui qui fait les tours de feuilletage pour pouvoir sortir les plus beaux feuilletés. Et finalement, c'est le dernier qui intervient sur un filet de bœuf, par exemple, en croûte. C'est lui qui va envelopper avec son feuilletage le filet de bœuf pour le servir à table. Voilà, je trouvais que c'était joli. Il faut défendre ces métiers, ou du moins s'en souvenir. comme on se souvient aussi de jolis mots et de lettres d'amour.
Mais encore une fois, comme c'est bien dit, tout à fait raison, on est à fond avec vous Jean-Luc Petit-Renaud. Souvenons-nous de ces métiers oubliés, le spécialiste des abats, mais j'aurais adoré faire ça moi.
Hein. Oui, complètement, c'est vrai que c'était dans les grandes brigades de l'époque où il y avait tous ces postes différents. On avait l'entremétier.
Oui.
L'entremétier, c'était celui qui préparait que les légumes, le grilladin. Qui faisait exclusivement que les grillades.
Au charbon de bois, voilà.
Au charbon de bois, le rôtisseur, qui avait ses fameuses rôtissoires. Par contre, Laurent, rester une heure devant une rôtissoire, fallait que les gars ils soient costauds quand même.
Ouais. Et comment c'est physique. Dur. Ne l'oublions pas, c'est un métier physique et endurant. Vive les cuisiniers. Dans un instant, un nouveau compagnon de la fourchette nous rejoindra à la table. Un homme de théâtre qui adore manier l'absurde, c'est Jean-Michel Ribes qui sera avec nous. Bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1.
Vous commencez à le savoir maintenant. En plus de vous mettre l'eau à la bouche tous les samedis, la table des bons vivants répond aussi à vos questions. Alors si vous en avez, faites le 39-21, 50 centimes la minute. Et Laurent Mariotte et l'équipe vous répondront avec grand plaisir.
Merci d'être à l'écoute des bons vivants. Il est bientôt midi et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Alors si le rire était un parti politique, il aurait forcément sa carte de membre. Il est tombé dans la marmite de l'absurde quand il était tout jeune. À 20 ans, il écrit sa première pièce, Les Fraises musclées. Suivront des pièces telles que Muséo, Musée bas, Théâtre sans animaux. Avec la série Palace, il a mis la télé au diapason de l'humour absurde et ça lui a fait beaucoup de bien. À la tête du théâtre du Rond-Point, il vient de mettre en scène de nouvelles extravagances avec la pièce folie. C'est Jean-Michel Ribes, notre invité. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Bienvenue dans notre palace.
Oui, hein. Très bien.
Vous reconnaissez cette musique ?
Oui, oui, c'est bien, oui.
Ça, c'est Palace.
C'est voilà. Un sacré souvenir d'enfance.
Quelle série ! Ouais. Vous avez fait un bien à la télévision quand même avec cette série, en amenant l'absurde qui était quand même un genre pas facile à la télévision.
Bah, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les gens qui dirigent les chaînes de télévision s'imaginent que les gens aiment un certain nombre de choses. En réalité, les gens, ils sont beaucoup plus en avance, beaucoup plus curieux. Et le Rond-Point en est l'exemple. On fait que des auteurs vivants, qui paraît-il n'existaient pas ou ennuyaient tout le monde, et on est devenu le troisième théâtre de France. Enfin, voilà. Tout ça, c'est la victoire d'un public curieux, attachant, qui a envie de voir autre chose que ce que pensent les gens qui programment.
Et oui, le public n'est pas suiveur. Alors, vous revenez avec une pièce qui s'appelle Folie, une pièce drôle et décalée, absurde, avec des textes de votre ami Roland Topor, de vous, des mélodies de Reinhard Wagner. C'est un mélange de textes absurdes et décalés. C'est un joli cadavre exquis, en fait.
Voilà, alors moi, je dirais plutôt que c'est un bon vivant charmant plutôt qu'un cadavre exquis.
Ah ben, ça nous va bien, oui, c'est exactement ça. Ouais. Je vous ai entendu dire, avant la pièce, vous passiez comme ça voir les gens et vous disiez « Oh, tu sais, c'est rien, c'est pas grand-chose. C'est toujours du n'importe quoi comme ce que j'aime faire. »
Oui, bah c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tous les gens raisonnent, vous savez, les gens raisonnent, savent, sont sur deux, les gens savent.
Oui.
Et c'est important de montrer que le raisonnement tue un peu la pensée. N'importe quoi, c'est la pensée, c'est ce qu'il y a de plus libre et de plus savoureux.
C'est une pièce qui fait du bien. Ça démarre par une déclaration d'amour à l'artichaut. Il y a un vampire végétarien. Et puis, une invitation au cannibalisme aussi à l'intérieur de
bon
cette pièce.
La cuisine cannibale, qui est malheureusement une cuisine trop oubliée.
Quel est votre goût de la semaine, Jean-Michel Ribes ?
Ben, le goût de la semaine, c'était l'autre soir. J'étais chez ma mère qui me dit « Viens dîner si tu veux ». Il y a de la choucroute. Et moi, je détestais la choucroute. Vraiment, c'est un souvenir d'enfance, un souvenir de pension. C'était infect. J'ai dit « Bon, je viens ». Et j'ai goûté cette choucroute qu'avait fait une de ses amies. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais alors si c'est ça la choucroute, je suis passé à côté de la choucroute toute ma vie. J'ai adoré ça.
Vous aimez picorer, Jean-Michel Ribes ? Parce que votre pièce est un peu un grand mezzé quelque part. Hein. Il y a plein de choses. Il y a des textes, des chansons, il y a de l'absurde.
C'est-à-dire que c'est un petit bouquet fleuri, un petit chose garni. Moi, j'avais envie que, comme ça, qu'on saute du coq à l'âne et de l'âne au plaisir et du plaisir à la joie, etc.
Eh ben, c'est ce qu'on fait un petit peu, vous savez, avec les tapas qu'on mange en Espagne. Et vous avez le roi du tapas devant vous, Yves Candebord, qui, justement, dans ses avant-comptoirs de Saint-Germain-des-Prés, régale les Parisiens avec de jolis tapas. On va revenir un petit peu sur cette tendance.
Entrer dans son restaurant.
C'est vrai que c'est très prisé. Alors, il y a un petit peu de queue devant le trottoir parfois. Hein. Vous voyez qu'il va falloir rallonger, hein, Yves Candebord, un moment. Hein. C'est vrai que le tapas, c'est un genre nouveau, mais qui fait partie de notre quotidien maintenant, Yves.
Oui, complètement. Mais c'est vrai que moi, quand j'entends le nom Jean-Michel Ribes, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser de la pièce que vous avez mise en scène.
les brèves de comptoir.
Ah oui.
Et Dieu sait que moi, j'ai la culture du comptoir. Parce que dans le sud-ouest, c'est vrai qu'on est souvent, on a souvent le coude qui est posé sur le comptoir. Et le comptoir, c'est un moment de partage, un moment de convivialité. On se sent à l'aise, on se décontracte, on discute, on parle, on boit, on chante et on mange. Alors les tapas, Laurent, c'est vrai que c'est la culture espagnole.
Ça vient d'Espagne.
Ça vient d'Espagne, c'est vraiment leur culture à eux. D'ailleurs, ça vient du mot tapar en Espagne, qui veut dire couvrir, parce qu'à l'époque, en Andalousie, ils couvraient leurs verres avec des tranches de pain ou de jambon pour les protéger, des insectes qui pouvaient rentrer dedans.
Bien vu.
Ça vient de là. Alors, en France, on a un autre mot qui s'appelle les hors-d'œuvre. C'est des petites bouchées qu'on prend avant d'aller manger, qu'elles soient chaudes ou froides. Parce que nous, on a quand même cette culture de la table. Par rapport au tapas espagnol, le hors-d'œuvre français, c'est en acidité, c'est en croquant et fraîcheur.
Alors, c'est ce que vous avez fait dans de jolis verres bodega. On vous mettra les recettes sur europe1.fr si vous voulez recevoir ce week-end pour faire un brunch, par exemple, ou même partir pique-niquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tapas ? Tiens,
donnez-nous des idées. Je vous ai fait trois petits hors-d'œuvre à la française. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison. Ça va vite, c'est simple. Alors, le premier, c'est un mélange de pequillos, le petit poivron espagnol, anchois, cube de fromage fumé de brebis, et un peu de pamplemousse pour amener l'acidité. Le deuxième, c'est de la feta, des petits pois crus, basilic, tomate et concombre, avec des petites capres et une pointe d'huile d'olive.
C'est bien.
Et le troisième, j'ai fait parler mon cœur, j'ai fait parler ma patrie, j'ai pris un boudin noir béarnais, avec des pommes Granny Smith, une vinaigrette à base de grenade, d'oignons rouges et de cornichons.
Oui. Ça vous plaît ?
Les tapas, ça sont merveilleux ce qu'il a fait. Parce que moi, je vais souvent en Espagne, c'est vrai que, comme dans tout pays, les grandes spécialités ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on raconte. Et chez les Espagnols, il y a des grandes tapas et des petites tapas.
Oui, parce qu'en général, ils y amènent quand même la mayonnaise à outrance qui amène quand même une forme de lourdeur. Mais c'est la culture espagnole, il faut la respecter. Et c'est vrai que quand on va à Saint-Sébastien, on est quand même content de prendre ce morceau de pain avec
c'est
cet
vrai.
Excès de mayonnaise.
Mais oui, mais
c'est
sous les arcades
à Saint-Sébastien. Destination.
Parce que voilà, c'est vrai que le moment de la culture du comptoir, il doit y avoir les discussions, les brèves de comptoir. On doit se faire autant plaisir aux oreilles qu'au palais quand on est dans un comptoir.
Eh bien là, on se fait plaisir aux oreilles parce que j'ai aussi vos petits pois avec des tomates cerises et un petit peu de basilic. C'est simple, mais c'est bon, quoi. C'est frais. Quelle est la petite sauce ? Il y a une huile d'olive ? Il y a
quelque chose qui enrobe, là. Oui, c'est une huile d'olive du domaine de la Cavalière à Lourmarin. C'est une olive avec des olives noires. Mais l'important, Laurent, n'oublions pas, acidité, croquant et fraîcheur.
Acidité, croquant et fraîcheur. Vous avez retenu la leçon, Jean-Michel Rive.
Oui, et l'important quand même, ne l'oubliez pas, ce que disait notre maître et le vôtre, Bria Savarin, peu importe ce qu'on mange, l'important c'est avec qui on le mange. Et pour l'instant, ça va.
Alors, ça va peut-être se gâter parce que on vous a commandé des travers de porc, vous savez
ce qu'on a. Allez-y.
Les ribs.
Allez-y. Vous allez faire le compte bancaire aussi.
Non,
juste les travers de porc.
C'est ça, les ribs pour Jean-Michel Rib qui est venu avec son rib, absolument. On revient juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyne, là tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver à la table des bons vivants. De la fourche à la fourchette, c'est tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1. Jean-Michel Ribes est notre invité. Il se régale avec les tapas d'Yves Condebord. Jean-Michel, on vous connaît aussi évidemment pour les années Palace qu'on évoquait tout à l'heure. Vous allez d'ailleurs les adapter au théâtre, ces années Palace.
Alors, il y a quelques années, j'étais à New York pour présenter mon film au musée Bas, et à l'issue d'une projection, il y a un garçon qui est venu, il m'a proposé de le faire à Broadway.
Ah oui ?
Il fallait que je reste 7 mois à New York avec le rond-point impossible. Donc. Et quelques années après, 5 ou 6 ans, un producteur qui s'appelle Richard Cagnac me dit « Ah mais j'aimerais, ça te dirait pas ?» Et je lui dis oui, et tout d'un coup on est parti pour ça. Et c'est une entreprise insensée, il y a 21 personnes sur scène, il y a des danseurs, etc., la musique de Palace, etc. Et on fait ça au Théâtre de Paris. Ça commence le 10 septembre.
Ah.
Et la location est ouverte, je vous le dis, parce que dépêchez-vous.
Voilà une bonne nouvelle. C'est vrai que cette série a permis de découvrir Roland Blanche, de redécouvrir Jean Carmet. Il y avait Philippe Corsan, Marcel Philippot, Valérie Lemercier qui démarrait.
François Morel.
François Morel. C'était incroyable, ce casting. J'aimerais justement qu'on écoute l'adorable Jean Carmet, qui était un bon vivant, justement, avec une belle brève de comptoir.
Les haricots, ça fait péter. Même si tu te forces à penser à autre chose, ça fait péter. C'est fou.
Et oui, c'est ça, même si on se force à penser à autre chose. Mais c'est magnifique.
C'est tellement vrai.
On en réécoutera tout à l'heure. Alors, on va parler de beaux morceaux avec des travers de porc, hein, les fameux ribs,
oui.
Jean-Michel, qu'on va cuisiner.
C'est affreux, ça.
Vous vous dites, je sais, c'est terrible.
On rit nerveusement pour vous, Laurent.
Je suis très, très mal. Là. Je suis très, très mal.
C'est vrai qu'il y a plein de blagues sur Laurent que je ne fais pas.
Laurent Houtan, Laurent Barre.
Oui, mais je ne fais pas. Ça. Oui, bon, pas. Je ne bouge pas, je reste. Moi, je veux que votre émission soit top, au haut de l'esprit français et de l'humour hexagonal. Donc, je reste...
Top au calembour, vous avez raison. Vous y connaissez en viande et en grillade?
Alors, je veux dire, c'est mon péché mignon. Je sais que ce n'est pas très bien vu en ce moment et que je vais me faire assassiner à la sortie de votre émission par un ou deux véganes fous. Mais non. Moi, j'adore la viande, j'adore les grillades. Et la seule chose que je savais à peu près cuisiner, c'est faire des grillades.
Ah, alors justement, écoutez bien, on part à la rencontre de la cuisine d'Alessandra Montagne. C'est la chef du restaurant Tempero dans le 13e arrondissement de Paris. Elle pratique une cuisine métissée, Jean-Michel, à cheval entre l'Amérique latine et l'Asie, avec des produits d'Île-de-France. Et on lui a lancé deux défis, de cuisiner avec les légumes que nous avons récoltés au début de l'émission chez Thierry Rian et de vous préparer justement de jolis travers de porc. On écoute.
Il n'y aura rien d'autre que des produits de région parisienne. Ça, ce porc-là, par exemple, il sort directement de l'abattoir, élevé et abattu en région parisienne, à Oudan, dans le 78. On va mettre l'ail nouveau, coupé très très fin, un petit peu de gingembre quand même. On va faire mariner un petit peu le travers de porc. Tu massages comme ça, bien joli. Petro, est-ce que tu peux m'amener, s'il te plaît, la grande casserole avec du foin? On va fumer un petit peu le travers. On regarde, on met dans un écumoir, comme ça, il y a les petits trous, il y a la fumée qui va passer. On allume, on met le feu comme ça, regarde, il y a du feu là. On ouvre, plus de flamme. Il faut laisser au moins une petite heure quand même. Hein. Ensuite, on le met au four à 140 degrés pendant 2 heures. Comme ça, le résultat, il est hyper tendre. On n'a pas agressé la viande, on la laisse tranquille. Après, on va passer aux légumes. On a coupé les navets. On a mis dans la poêle avec 3 cuillères à soupe d'eau. Une petite pincée de sel. Pas besoin de dénaturer. Donc on va pas trop les toucher, les légumes. On va juste les glacer. Carottes aussi. Mmh. Ça va, Pépé?
Oui.
Deux petits quartiers de navets. Un peu de sauce. Ah, c'est bon. Mange. C'est ouf, hein? Mais je suis incapable de cuisiner un truc que j'aime pas manger.
C'est réussi. Elle a bien raison.
Elle est géniale.
Merci, Alessandra, du Tempero dans le 13e arrondissement de Paris. Alors, Jean-Michel, c'est ribs?
Vous n'avez pas le droit, en plus, de rire de ce que vous dites vous-même.
C'est mon côté Laurent Ruquier.
Personne ne rit. Oui, ah oui, d'accord. Dans ce cas-là, d'accord. Non, c'est très bon.
Ça vous plaît?
Depuis que je suis ici, tout me plaît. Vous, ce qu'on mange, cette jeune femme, ce maître du tapas, tout me plaît. Je pense que je ne vais pas partir.
Bah restez avec vous. Ah ben, on vous met une carte de membre à vie, hein, c'est pour ça qu'on voulait vous recevoir.
Laurent, ce qui est merveilleux, moi, Yves, je trouve, c'est vrai, la poitrine, ce gras de la poitrine, avec la belle amertume
elle est fondante.
Du navet. Mais l'association amertume du navet très légère avec la poitrine, le gras, la poitrine, c'est,
ça casse le gras.
Ça casse le gras. Et justement, ça amène l'assaisonnement.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Yves Candebord?
Je pense qu'il faut rester sur un vin un peu chaud, un vin du pays gaillacois. Un Duras, un vin rouge, voilà, qui est quand même fruité, mais qui est quand même un peu charpenté. Parce qu'il faut quand même des vins qui tiennent la route là-dessus. Et voilà, la maison Plajol, Bernard Plajol, le Duras, à Gaillac, un vigneron d'exception. Et c'est sûr que ça va bien se marier avec, bien l'accompagner.
Alors ne bougez pas, on revient tout de suite avec notre invité Jean-Michel Ribes, bon vivant parmi les bons vivants, pour répondre aux questions que vous avez posées sur le répondeur au 39-21. A tout de suite et bon samedi midi sur Europe 1. Bon app, hein, si vous êtes à table.
Jean-Michel Ribes est l'invité de la table des bons vivants jusqu'à midi et demi. Alors pour l'occasion, Laurent, vous avez sorti de beaux morceaux de viande.
Merci d'être avec nous à la table des bons vivants devant de beaux travers de porc fumé pour Jean-Michel Ribes, qui se régale et qui nous régale hein, sur la scène du Théâtre du Rond-Point avec Folie, sa dernière création. Une pièce qui porte bien son nom. Et en plus, c'est au bon horaire, c'est à 18h30. Je trouve ça génial. On va dîner juste après.
Oui.
C'est une soirée excellente. Elle fait du bien à votre pièce parce qu'elle nous sort, comme vous dites, de l'amorosité ambiante, de l'agression, du monde un petit peu anxiogène dans lequel nous sommes.
Mais c'est un petit peu une issue de secours.
C'est ça.
Et moi, je suis très heureux parce qu'on a pris beaucoup de plaisir à le faire. C'est léger. Et en même temps, comme toutes les choses légères, ça raconte des choses. Quand je vois les gens sortir... tellement heureux, ils ne s'y attendaient pas. Oui, c'est vrai que ça se passe très bien.
Ça fait beaucoup de bien. Vous prenez le temps de cuisiner dans la vie, Jean-Michel Ribes?
J'adorerais prendre le temps de cuisiner dans la vie. si la vie me laissait un peu de temps. Voilà, bon, c'est juste ça.
On m'a dit en tout cas qu'il y a une chose avec laquelle il ne fallait pas plaisanter avec vous, c'était le tarama.
Ah oui, ça c'est vrai. Ça, je n'en peux plus des roses à joues et des faux taramas. Et
tarama fluo.
Oui. Vous savez, le tarama, le vrai tarama, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le vrai tarama...
C'est blanc fait,
d'abord, c'est blanc. Ce n'est pas avec des œufs de cabillaud, c'est avec des œufs de mulet. C'est avec du pain rassis, du citron, et tout ça est mélangé avec de l'eau, et c'est tout. Et après, on laisse reposer. C'est sublime.
Mais on en trouve encore hein, du vrai tarama naturel aux œufs de mulet, comme vous dites, ou aux œufs de cabillaud. Mais c'est vrai que c'est tout simple. Hein. Et c'est un joli condiment pour déguster une patate douce, par exemple, ou un concombre. Juste un tarama à côté, ça marche bien, ça.
Et même, Laurent, avec un poisson, un petit poisson vapeur, juste avec un peu de tarama dessus, ça va lui donner l'assaisonnement, ça va lui donner la vie. C'est juste
oui, ça ressuscite
simple.
Parfois avec un peu de tarama, hop, il revit et il se barre.
C'est exactement
il
c'est ça.
Il se barre de l'île pour aller dans votre...
dans l'émission.
Non, oui. Dans le calembour
chaud. Il se barre de bouche.
Oui, il se barre de bouche.
Alors, vous le savez, ici, on répond à vos questions sur des sujets aussi différents que l'alimentation, les produits de saison et l'agriculture. Voici une question au 39-21.
Bonjour Laurent, je suis Julien de Bordeaux. J'appelle parce que je fais souvent du pain perdu avec mes restes de pain et je suis à la recherche de nouvelles recettes. Est-ce que vous auriez de bonnes idées pour moi ? Merci et bonne émission.
Bravo déjà Julien de Bordeaux de ne pas gâcher et gaspiller le pain. C'est la fête du pain d'ailleurs jusqu'à demain. Arrêtons de jeter le pain. Alors on l'a dit, on peut faire de la chapelure, mais on peut faire des tas de choses Yves Candebord avec le pain rassis.
Oui, complètement le pain rassis. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à toujours penser systématiquement pain perdu, mais on peut le faire en salé. Alors moi j'ai un souvenir d'apprentissage. Mon patron, qui était un basque un peu radin, conservait donc tous les pains rassis et il nous faisait ce qu'il appelait la pépérade blanche. Ah oui. Mais c'était pas mal. C'était du pain juste imbibé avec un peu de lait, très légèrement, juste pour le rendre à peine un peu moelleux. Il le faisait frire à l'huile d'olive. Une fois qu'il était bien frit, déglacé avec un trait de vinaigre et dessus une tranche de jambon de pays. Et ça faisait pratiquement, j'ai envie de vous dire, un petit tapas chaud.
Oui, comme un pan con tomate un
comme
peu.
Comme un pan con tomate. Et c'était très bon parce que l'acidité du vinaigre relançait le pain et le côté frit du pain amené du croustillant avec le jambon qui fondait dessus, ouais. Ça faisait un joli petit pain perdu salé.
Je ne sais pas pourquoi Jean-Michel on appelle Ribes. Ça le pain perdu. En réalité, on devrait appeler ça le pain pas perdu.
Mais on l'a retrouvé.
Oui, voilà.
Une autre question 39-21.
Bonjour Laurent, je m'appelle Alice, j'habite Bordeaux et j'ai une question. En fait, j'ai remarqué qu'au restaurant, on mettait souvent de la sauce de viande, du jus de viande. Et je voulais savoir si ça pouvait faire maison, parce que je trouve ça super bon. Voilà, merci beaucoup.
Ah, vous êtes une gourmande, et bien bravo Alice, et vous avez bien raison. C'est vrai que la cuisine française, c'est l'art des sauces, c'est l'art des jus. Yves Candebord, c'est simple à faire un jus
oui,
de viande.
Oui, c'est l'art du déglaçage. C'est quoi le déglaçage ? C'est le jus. C'est très simple. Quand vous achetez un morceau de viande, systématiquement à votre boucher, vous lui demandez de vous donner des petites parures, des petits morceaux de viande supplémentaires. Vous cuisinez dans une sauteuse. La fameuse sauteuse, c'est la poêle un peu plus grande ou la casserole
avec
un peu plus petite,
oui.
Avec des bords hauts, une huile ou un corps gras légèrement chaud. On caramélise sa viande, on met ses petites parures en même temps et on laisse accrocher. C'est ça le jus, c'est les sucs qui vont se déposer au fond de la casserole, au fond de la sauteuse, qui vont donner ses jus. Une fois que votre viande est bien cuite, vous la sortez, vous prenez un peu d'eau, vous déglacez, c'est-à-dire que vous allez mettre votre eau dans votre casserole encore chaude. Bien sûr, ça va faire une effervescence assez puissante. Et là, avec une cuillère, vous grattez bien le fond de votre casserole. Alors, important, surtout pas une sauteuse Tefal. Surtout pas. On reste
de
sur de l'inox traditionnel. Oui. Donc, on gratte avec la cuillère le fond de la casserole. Tous les sucs vont se détacher. Et vous allez avoir un petit jus qui est très simple. Ça vous fait un petit jus de cuisson. Ça vous fait la petite sauce que nous, les professionnels, on met régulièrement dans les assiettes.
Magnifique. Merci Yves Candebord. Tous au jus pour saucer. C'est important de saucer, Jean-Michel Ribes. Vous êtes d'accord ? Même dans les grands restaurants.
Oui. Vous savez, je dis oui à tout ce que
non,
vous
non,
dites.
Non, mais il n'y a pas de blague, il n'y a rien. Là, vous avez
non, mais à propos de reste, je reviens à folie. Folie, ce sont que des restes de Topor, de Wagner et de moi, qui étaient des restes oubliés, qui étaient les meilleurs
c'est
morceaux qu'on a remis ensemble pour faire un plat. Je suis obligé de prendre une métaphore culinaire chez vous.
Mais vous
pour
êtes,
faire
vous
un plat
bien.
Savoureux. Que les gens dégustent avec joie. Théâtre du Rond-Point, 18h30. Folie.
Mais venez, allons-y. Franchement,
c'était bien amené.
On vous la conseille, cette pièce. C'est pour ça que vous êtes ici. Ne bougez pas. On va cuisiner notre invité, justement, dans un instant, Jean-Michel Ribes, avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
À La table des bons vivants, c'est votre rendez-vous du samedi sur Europe 1. C'est une table ouverte à tous et où on ne fait pas trop de chichi, surtout Laurent.
Merci de nous retrouver à la table des bons vivants. Alors on y boit des cocktails et on y mange avec les doigts. C'est chic, mais pas trop, vous allez entendre. Et nous sommes avec Jean-Michel Ribes, notre invité, qui est à l'affiche en ce moment au Théâtre du Rond-Point. Son théâtre avec sa pièce mise en scène par lui-même. Folie, une pièce drôle, absurde. Et sexy, Jean-Michel Ribes aussi.
Oui.
Il y a des moments
coquins. Le plaisir des yeux et des oreilles, il y a des choses absolument. Qui mettent la papille comme ça de l'éros en...
Ah, la papille de l'éros.
En érection.
C'est beau, c'est bien dit. Vous avez filmé et mis en scène les restaurants, bien souvent mis en scène le restaurant dans Palace. Le restaurant est partie intégrante de votre théâtre du Rond-Point. Est-ce qu'il y a des choses qui vous amusent ou qui vous irritent au restaurant, Jean-Michel Ribes?
Ce qui m'irrite, moi, c'est souvent... C'est de moins en moins, il faut reconnaître, mais c'est souvent un tout petit peu un dédain ou un oubli du service. Mais vous ne me l'aviez pas dit ça. Voilà. J'ai l'impression que la cuisine est d'autant... Même la cuisine qui n'est pas exceptionnelle, elle devient bonne quand on est bien accueilli.
C'est très important, ça. Hein, l'art de recevoir, Yves Condebordes.
Oui, moi, je suis complètement d'accord. Même moi, en tant que cuisinier, je préfère aller dans un endroit où, justement, il y a un accueil, il y a de l'humain, même si l'assiette est peut-être un peu banale. Qu'une grande assiette, si je suis reçu, voilà, si on sent qu'il y a du dédain
et de la distance.
De la distance. Ouais. On aime les hommes.
Oui, voilà. Et les femmes aussi, personnellement.
Tiens, écoutons encore une brève de comptoir, justement, de votre belle série Palace.
La viande tendre, c'est de la viande qui a été heureuse.
C'est tellement vrai.
Mais voilà, Jean-Michel Ribes, Jean Carmet, qu'on adore réécouter. C'était un bon vivant. Vous deviez vous régaler avec lui.
Ah oui, c'est extraordinaire. Bon, moi, je suis allergique à l'alcool depuis que je suis petit. Et j'ai été entouré de gens qui buvaient du vin sans arrêt. Alors, ils me demandaient pourquoi. Je crois que j'ai compris. Parce que si je bois un verre de vin, moi, je tombe dans un coma éthylique. En vérité, je pense que parce que je suis ivrement naturellement et qu'un verre en plus, et c'est fini, je tombe. Voilà, c'est ça l'explication. C'est pour ça que je ne bois pas. Mais c'est vrai que Jean Carmet ne supportait pas que je ne bois pas de vin. Alors, il m'invitait chez lui, il mettait des tas de verres remplis de vin blanc, il me dit « Amuse-toi avec, prends le vin, amuse-toi, ça t'amuse ?» Je ne peux pas, Jean, fais-le. Un de ses regrets, c'est de ne pas m'avoir converti au vin blanc.
Alors, on va essayer, non pas de vous convertir au cocktail, mais en tout cas à l'art du cocktail pour les faire,
oui,
si vous avez
l'art.
Envie
le moir, c'est
pour recevoir.
Bon.
D'ailleurs, c'était Mister Cocktail qu'on entendait dans le générique, dans le jingle là, de Bref de comptoir, avec Jed Marlon qui faisait petit bruit
de
cocktail, absolument. Anne-Laure Femme, vous allez nous remettre en phase avec la tequila, en fait, et la margarita, c'est ça?
La tequila, qui est l'ingrédient essentiel de la margarita, Laurent. Alors, on va aller sous le soleil de Mexico, parce que c'est là-bas que la margarita est née et que c'est la boisson nationale, même si elle est depuis extrêmement populaire, notamment en Amérique du Nord. Alors, c'est né dans les années 30-40, et pour la petite histoire, margarita, ça viendrait de sa présumée inventrice, qui s'appelait Margarita Sames, une personnalité mondaine, originaire de Dallas, États-Unis, qui adorait recevoir beaucoup de monde et les arroser copieusement dans sa maison à Acapulco. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de la margarita.
Acapulco, vous dites c'est pas mal. Aider Acapulco, c'est vraiment parce que ça met une touche d'eau dans le cocktail. C'est pas mal.
Bah, c'était exprès pour vous, Jean-Michel.
Acapulco,
c'est mieux, hein, c'est ça.
J'ai pas de grands souvenirs de tequila, moi. Enfin, je suis pas un grand connaisseur, mais est-ce qu'il y a de grandes tequilas?
C'est normal, Laurent, c'est un peu comme la bière et d'autres spiritueux. C'est comme en amour aussi, il faut se construire une expérience et essayer plusieurs spécimens en trouver au final le meilleur.
Il a une grande expérience en amour, Laurent.
On le voit tous. Mais pas en tequila encore. De manière générale, il faut opter pour ce qu'on appelle une tequila blanco, c'est-à-dire 100% agave. L'agave, c'est quoi? C'est une rosette en forme un peu de grosse fleur cactus, mais ce n'est pas un cactus, à feuilles à épines. On extrait le cœur de l'agave, on le fait chauffer et fermenter. C'est de là aussi qu'on fait le fameux sirop d'agave, qui est maintenant assez connu du grand public. Alors, vous fuyez surtout les versions de tequila bon marché, où il y a genre 51% d'agave et d'autres sucreries horribles et d'additifs. Donc, on va vous épargner ça pour votre estomac délicat.
Qu'est-ce que vous nous conseillez alors? Une belle sélection, signe Anne-Laure Femme.
Eh bien là, j'ai pris conseil auprès d'une superbe barmaid qui s'appelle Alejandra Fuentes, qui est mexicaine, qui m'a recommandé la Calle 23 Blanco. Ce qui est chouette, c'est que c'est une ingénieure française en biochimie qui s'appelle Sophie de Cobec, qui a créé en 2009 sa propre marque, qui a travaillé dans pas mal de distilleries du coin, et donc qui fabrique cette Calle 23 Blanco à partir d'agave bleue à côté de Guadalajara, Merci Jean-Michel. Dans l'ouest du Mexique. Et au goût, ça donne une saveur très douce de fruits secs, de pommes type un peu Granny Smith. Et il y a une belle longueur en bouche et ça offre des touches herbacées.
Ah, ça donne
génial.
Envie.
Rien à voir avec la tequila à 10 euros
ben
de votre supermarché.
C'est une invitation au voyage. Alors on a envie de faire un cocktail, une belle margarita. Donnez-nous voilà. Tiens, les grandes clés pour réussir un cocktail ce week-end, par exemple autour de la margarita et de la tequila.
Alors j'ai décidé, sous vos yeux ébahis, de faire une frozen margarita pour faire un peu un côté rafraîchissant. Donc là, je vais mettre la tequila blanco qui est mélangée avec ce qu'on appelle du triple sec. Alors ça peut être votre bouteille de Cointreau, mais là j'en ai un que j'adore, qui est de la Maison Ferrand, qui est un dry curaçao triple sec, parce que triple distillation d'écorce d'orange douce et amère, et c'est délicieux. Et c'est un peu infusé aussi avec du brandy et du cognac. Donc je mets tout ça.
Dans un blender classique, un mixeur qu'on a à la
sans
maison.
Sans façon, sans chichi, pas besoin de shaker, voilà. Après, j'ai mis aussi du jus de citron vert fraîchement pressé, bien sûr. Et vous mettez enfin un sirop simple que vous aurez fait maison. Une moitié de sucre, une moitié d'eau. Vous faites bouillir et ensuite vous laissez refroidir. Et puis, j'ai pris des verres que j'ai givrés. Donc, je les ai enduits de miel et recouverts de sel fin.
Quelques glaçons pour le petit côté frozen. Il s'en passe des choses, Jean-Michel Rive. Hein.
Je suis sibéré. J'ai l'impression d'être à la NASA.
Et voilà, vous versez dans les verres.
La frozen margarita. Alors, avec plaisir, mais avec modération, bien entendu. Alors, goûtons.
On est sur le citron vert. C'est très tendu comme et très rafraîchissant.
Ah, puis c'est bien avec le sel, effectivement, sur les bords.
Le sel n'est surtout pas accessoire. C'est surtout pas un maniérisme. Donc, n'hésitez pas. En gros, si vous la faites vous-même à la maison, ça vous revient à 3-4 euros le verre. Vous retrouvez la recette sur europe1.fr.
Eh bien, merci beaucoup, Anne-Laure Femme. C'est l'heure de vous passer à la casserole, Jean-Michel Ribes.
Ah, enfin.
Avec le questionnaire des bons vivants. C'est parti. Quel est le goût de votre enfance, Jean-Michel ?
Le goût de mon enfance, c'est évidemment les frites. Parce que j'ai abandonné le biberon qui me semblait un peu fade assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi, je suis tombé sur une frite et je ne les ai plus lâchées.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
Il y a un repas que j'ai fait un jour, m'a fait mon ami Pierre Gagnère. Je ne peux pas vous
l'artiste.
Dire que c'était mauvais. Un créateur, un artiste que j'aime beaucoup. Et puis, je dois le dire, j'ai découvert un endroit qui est juste en face du rond-point, qui s'appelle Clarence, où je peux vous dire que là, c'est sublime.
Un très grand chef cuisinier, absolument.
Oui, moi, je suis complètement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui...
Christophe Pelé,
c'est peut-être la plus belle table de France.
Oui, c'est exceptionnel.
Un artiste
absolu. Je le salue parce que vraiment, j'y suis allé parce que c'était en voisin. Et je lui ai dit, même, vous êtes presque aussi bon en cuisine que nous en théâtre.
C'est un beau compliment. Le plat que vous ne pouvez pas manger, Jean-Michel Ribes.
Pardon, je ne peux pas manger les abats. Je ne peux pas, j'y arrive pas, je ne peux pas.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte ?
Des cerises.
Ah, c'est la saison, on rentre dedans en plus.
D'ailleurs, je pars bientôt sur une île déserte, je pars toujours sur une île déserte au moment des cerises.
Avec un joli panier ?
Pas forcément, je peux les amener dans n'importe quoi. J'adore les cerises, c'est une passion. Alors ça aussi, c'est une passion d'enfance. Je pourrais dire frites cerises, le goût de l'enfance.
Quel est votre mot préféré en cuisine ?
Bleu.
La côte de bœuf, l'entrecôte ?
Oui, bleu.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Jean-Michel Ribes ?
Alors, on parlait de Pierre Arditi tout à l'heure, et c'est vrai que Pierre est quelqu'un de magnifique à table.
Délicieux, généreux.
Délicieux, généreux, c'est un grand acteur. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, il va me dire « tu as oublié de dire que j'étais ceci, que j'étais cela ». Non, c'est agréable de manger avec des gens qui aiment vraiment manger. Il a une saveur face à la table qui est merveilleuse. Voilà, et puis, il y a quelques amis, je ne vais pas tous les nommer. Et voilà, si Miss France veut venir, je l'invite.
Quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Jean-Michel Ribes ?
Un plat que j'ai fait pour une de mes pièces. C'est-à-dire que j'ai fait un plat avec des mots.
Ah ben, ils sont beaux, vos plats, dans la pièce voilà. Folie. Alors tiens, justement, pour jouer avec les mots, si je puis me permettre, pour terminer, le mot de la fin, F-A-I-M.
Oui. Alors, le mot de la fin, c'est l'artichaut. Qui est un légume, ou je ne sais pas si c'est un légume,
c'est un légume
que j'adore, que j'aime beaucoup, qui est multicolore dans ses saveurs. Et je commence folie par « j'aime l'artichaut ». Et ma fille dit même que si elle pouvait, si elle était à recommencer, elle vivrait avec un artichaut.
Exactement, une grande déclaration d'amour à l'artichaut. Merci Jean-Michel Ribes.
Merci à vous.
D'avoir été notre invité. On sait que vous adorez les meringues.
Ah
donc
oui.
Regardez, cadeau, c'est pour vous. Celle de Benoît Castel qui était notre invité au début de l'émission.
Ah oui.
Un beau pâtissier.
Ah oui.
parisien de oui. Mini meringue pour vous, voilà, oui. Comme ça, en regardant la pièce que vous avez mise en scène, Folie, tous les soirs au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées à 18h30, allez-y vraiment, vous passerez un bon moment. Merci d'être venu à cette table.
Merci à vous, c'était très agréable.
Jean-Michel Ribes, merci à Lucie, Lescourou, Julien Matt et Louise Delaroa pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Merci à Jean-Luc Arblade pour la réalisation, Marie Jacquet pour la programmation, la belle bande de bons vivants. Nous retrouverons Olivier Pouls et Marion Sauveur aussi la semaine prochaine et vous retrouvez évidemment cette émission sur le podcast Europe 1. Bon week-end, faites le marché, la cuisine et le reste.
Et le reste.
Et le reste aussi. Tout le monde.
Bon week-end, Justine.